Donc la semaine dernière, comme Patrick l'a rappelé, on était dans la première épître à Timothée et on était au chapitre 3 où l'apôtre dresse un petit peu le portrait robot de l'ancien et du diacre, comment il devait être. Comment on devait les repérer en quelque sorte, quels sont ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent être responsables dans l'Église, avoir la responsabilité de la conduite de l'Église. C'est plutôt des critères extérieurs, donc. Leur vie, etc., leur femme et la façon dont ils tiennent leur famille, leur moralité. Cette semaine, c'est plutôt les critères intérieurs qu'on va voir. Chapitre 4, en quelque sorte la mission d'un responsable d'église et pas lequel. Il s'agit de Timothée lui-même. Qu'est-ce qu'il l'apôtre l'encourage et lui donne toutes sortes de recommandations. Et donc, je vous propose de regarder ce chapitre avec les yeux d'un recrutement. Le Seigneur, il recrute aussi. Il lance des appels. Et de voir comme une fiche de poste. Vous le présentez un petit peu comme une fiche de poste. Alors j'espère que vous ne serez pas déstabilisé dans une fiche de poste. Il y a une intitulée. Qu'est-ce que c'est qu'être ancien, ou pour Timothée c'est même quelque chose qui va au-delà. On verra ça dans le chapitre suivant. Dans quel cadre va s'exercer le poste, la mission? Quels sont les savoir-faire qui sont requis? Et quels sont également les savoir-être qui sont requis? Alors, le sujet qui nous préoccupe dans toute cette série, c'est l'ancien. Mais les principes sont valables pour tous ceux qui ont des responsabilités, je crois, dans l'Église, tous ceux qui aspirent à avoir des responsabilités. Et bien sûr, et même au-delà, pour tous les chrétiens également, tous les chrétiens sont appelés à servir et donc sont appelés à avoir eux aussi en quelque sorte une fiche de poste. Alors on va faire la lecture et on va commencer un petit peu de 1 Timothée. On va reculer un petit peu, empiéter sur le chapitre 3. Il y a une partie là qui fait transition entre les deux parties. Et donc je voudrais qu'on reprenne à partir du verset 14. 1 Timothée 3, 14. Je vais lire dans la seconde 21. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru à lui dans le monde et il a été élevé dans la gloire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, et cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Verset 7. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ces instructions, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé la main sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Oui, Seigneur, c'est bien là ta parole, et c'est bien nous qui avons besoin de la comprendre ce matin. Merci, Seigneur, de nous aider, de m'aider, aider mes frères et sœurs pour qu'ils puissent arriver à saisir mes paroles à moi, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Et aide-moi également à m'exprimer comme il faut, de façon fidèle. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alors, l'intitulé du poste, le poste de responsable ou d'ancien, voilà comment je le formulerai. Entre une vérité reçue et une apostasie à venir, transmettre la parole de foi avec piété et consécration. Entre une vérité reçue et une apostasie à venir, transmettre la parole de foi avec piété et consécration. Les premiers versets nous donnent le cadre de ce poste-là. L'Église, colonne et appui de la vérité. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. L'Église colonne et appui de la vérité. Les colonnes, vous avez remarqué, ça se voit de loin. Et quand vous voyez une colonne, ben vos yeux se portent toujours, qu'est-ce qu'il y a en haut? Par quoi ça se termine? Et des fois il y a un chapiteau, des fois il y a un petit quelque chose, un bout pointu, des fois il y a quelque chose, mais nos yeux se portent toujours vers la colonne, et qu'est-ce qu'il y a en haut, cette colonne qui monte vers le ciel, qu'est-ce qui se trouve en haut? Et ainsi l'Église met en évidence la vérité. Elle met en évidence la vérité. Et l'Église appuie de la vérité, soutient de la vérité. Et comment comprendre ça? On peut avoir une petite image si vous avez fait des jeux de construction que vous avez fait avec les enfants, vous-même peut-être. On a des cubes, on empile les cubes les uns sur les autres, et voilà, ça fait une colonne, mais c'est très fragile. Un souffle la fait tomber, un moindre petit mouvement et la voilà qui s'écroule par terre. Les colonnes dans l'ancien temps, dans les temples, c'était des gros cercles de pierres empilées, des gros cylindres empilés les uns sur les autres. Et qu'est-ce qu'il y avait en haut? Ben, il y avait un chapiteau où il y avait une structure qui mettait du poids dessus. Et si vous prenez votre colonne avec des pierres et puis que vous prenez quelque chose de lourd et vous le mettez dessus, ben, la pile que vous avez fait va être stabilisée. Ça va être stabilisé. Et la vérité appuie sur l'Église de Jésus-Christ. L'Église elle-même repose sur le fondement qui est Jésus-Christ, qui est les apôtres, qui est avec Jésus-Christ pierre angulaire. L'Église repose sur un fondement et il y a un appui sur elle. Hein, certains disent que c'est la pierre de tête, c'est Jésus-Christ lui-même. Et l'ensemble fait l'Église. Voilà le rôle de l'Église, colonne et appui de la vérité. Avec le message de l'Évangile qui est centré sur Jésus-Christ, au verset 16. Il y a la vérité révélée et il y a l'apostasie des derniers temps. Depuis les derniers temps. Depuis le temps des apôtres, l'Église est plus ou moins dans les derniers temps. Et on attend le retour de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre qui doit se passer entre le moment où l'Église a été fondée et le retour du Seigneur. Il y a une période où on est appelé à être fidèle en attendant le retour du Maître. Dans les derniers temps, quand on va s'approcher de la fin du retour de Jésus-Christ, pourtant, il est précisé ici, dans Jude également, qu'il va y avoir un temps où la foi sera moquée. On se moquera des chrétiens, on se moquera d'eux et il y aura un abandon de la foi par plusieurs. Et Jésus lui-même a prévenu à Luc chapitre 18 verset 8 quand le Fils de l'homme viendra sur la terre quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il nous pose cette question. Et depuis 2000 ans, le message de la vérité est sapé par des faux enseignants et plusieurs sont ébranlés jusqu'à perdre la foi. Et c'est ce que l'apôtre évoque ici, on l'a vu au premier chapitre, hein, de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et il cite également Hyménée et Alexandre qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et donc, il donne ici des enseignements pernicieux qui sans doute avaient lieu déjà à ce moment-là, mais qu'on peut aussi se projeter de nos jours. C'était la question, est-ce que je peux manger de tout? Est-ce qu'il ne faut pas faire un régime? Se priver de ça, de ça, de ça, faire de l'ascétisme. Est-ce que il faut refuser le mariage, refuser la sexualité? C'est quelque chose qui n'est pas bon. Et donc de classer, c'est bien de croire en Jésus-Christ, c'est bien d'avoir la foi. Mais en plus, il faut faire un régime alimentaire. Mais en plus, il faut être célibataire. Là, vraiment, si tu fais ça, tu seras un petit peu plus que les autres. Il n'y a rien de mauvais à faire un régime si on le souhaite. Il n'y a rien de mauvais à être célibataire non plus. Et il n'y a rien de mauvais dans la sexualité à l'intérieur du couple. On est dans une société aujourd'hui qui est assez compliquée parce que chacun fait attention à ce qu'il a dans l'assiette. On est tellement rassasié de tellement de choses, on a tellement perdu l'habitude de chercher notre pain quotidien qu'on est très attentif à ce qui est dans notre assiette. Alors, je n'ai pas de jugement à porter par rapport à ça, c'est simplement un fait. Et également, on est dans une société qui est hyper sexualisée, vous le savez. En tout cas, ici, l'apôtre donne quelque chose qui est valable, je crois, aujourd'hui. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Rendre grâce pour, avant de prendre un repas. C'est quelque chose qui paraît très simple, mais qui a un sens qui est profond. Si c'est vraiment dans un esprit de reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'on a. Et c'est valable pour un repas, c'est valable également dans la sexualité. Rendre grâce à Dieu pour la sexualité dans le couple, et ainsi la sexualité se trouve sanctifiée. Tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu, nous dit l'apôtre. Et donc ces choses-là sont précieuses aujourd'hui, pas seulement du temps où l'apôtre en a parlé. Quoi qu'il en soit, les problèmes sont nombreux, les fausses doctrines sont nombreuses, et au fur et à mesure du Nouveau Testament, il y en a beaucoup, et il y en a d'autres qui sont apparus par la suite. Et le Timothée et l'Ancien, ils se trouvent là, avec ce problème en face. Donc la mission de Timothée, la nôtre, elle se situe entre donc le moment où la vérité a été établie et le moment où Jésus-Christ va revenir. Et le verset 6, donc, que je vous propose comme verset clé, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Alors, cette phrase est très, très belle, je trouve. Je prendrai l'exemple des oiseaux. Vous savez comment les oiseaux font, peut-être pas tous, mais il y en a des oiseaux qui font ça. Ils se nourrissent et ensuite ils régurgitent la nourriture pour nourrir leurs oisillons. Ils régurgitent quelque chose qu'ils ont déjà eux-mêmes avalé. Et donc le responsable, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Il doit se nourrir de la parole de Dieu. Nourri des paroles de la foi que tu as exactement suivies. Donc non seulement le responsable se nourrit de la parole de Dieu, mais il applique aussi ce qu'il reçoit de la parole de Dieu. Il applique, il se nourrit, il applique et il expose ensuite aux autres. Donc, il y a ce processus, donc son travail, se nourrir de la parole de Dieu, l'appliquer et l'exposer, la restituer à l'Église. C'était le travail de Timothée, c'est le travail des anciens, puisqu'on a vu qu'ils étaient chargés tout particulièrement de l'enseignement. Mais c'est valable à tous ceux qui ont une responsabilité. Voilà pour la mission. Voilà un petit peu le cadre de la mission. Où est-ce qu'on va travailler? Quelle sera la mission dans ce cadre-là? Et maintenant, parlons du positionnement hiérarchique. À quel échelon on va être? Ben, on va être à l'échelon de serviteur, hein, domestique. Échelon de serviteur, pas esclave. C'est pas le mot esclave là. Le mot esclave, c'est doulos. C'est le mot diakonos qu'on trouve dans le grec. Donc c'est vraiment le serviteur. Voilà, la bonne, le boy, on dit en Afrique, hein, celui qui va servir dans la maison. Ça c'est l'échelon. Et le rattachement hiérarchique est à Jésus-Christ. Tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Et puis, dans les fiches de poste aussi, on précise qui seront les clients, c'est-à-dire qui va profiter de ton travail, hein, qui va pouvoir dire si ton travail est bien ou pas. Hein. Et là, ici, ben, les clients, c'est les frères et sœurs dans l'Église. Hein, c'est vers eux que tout le travail est dirigé. C'est eux les clients. Voilà un petit le positionnement hiérarchique. Et c'est une mission qui a une fin. Et la fin, c'est jusqu'à ce que j'arrive, dit l'apôtre Paul. Et on peut extrapoler ce jusqu'à ce que j'arrive. On le retrouve au verset 3, 14, on l'a lu. Je t'écris ces choses avec espérance d'aller bientôt vers toi. Et ici, dans notre chapitre, au verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, cette mission va être d'actualité. Parlons maintenant des savoir-faire. Il y a des choses que l'on doit maîtriser quand on a un poste. Hein, il y a des choses, voilà, il faut savoir le manier. Et c'est important, le savoir-faire. Et donc là, le savoir-faire, il va y avoir un savoir-faire à entretenir qui est la piété. La piété. Les exercices de piété vont nous permettre de garder la foi jusqu'à la fin. Garder la foi jusqu'à la fin, parce que le drame, c'est de perdre la foi. L'objectif, c'est de garder la foi jusqu'à la fin. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et voilà bien quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ici. Garder la foi jusqu'à la fin par des exercices de piété. Je vais relire les versets. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant et dans le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Le thème qui est à cœur dans tout cet épître est pour l'Église d'Éphèse, cette idée que vraiment le salut c'est pour tout le monde, c'est pas pour uniquement ceux qui seraient voilà dans l'Église et puis les autres on s'en fout. Qu'est-ce que la piété? Alors j'ai regardé dans le grand dictionnaire de la Bible, j'en ai un gros comme ça, et il y a tout un paragraphe qui se résume ainsi. La piété, c'est de vivre et de manifester sa foi. La piété est le fait de vivre et de manifester sa foi. Alors il y a une idée de persévérance dans le temps, une idée de quelque chose de rituel, de rite, et on encourage à avoir un culte personnel régulier tous les jours. Ça fait partie des exercices de piété. Prier avant les repas, être reconnaissant, des exercices de piété, de donner également un exercice de piété. L'idée de persévérer dans des choses que l'on fait régulièrement dans le temps. L'équivalent dans l'Ancien Testament est la crainte de Dieu, une personne qui a la crainte de Dieu. Il y a de nombreux exemples. Si vous connaissez l'histoire de prophète Élie, il y avait Abdias qui était serviteur du roi Akaz et qui avait affaire à la terrible Jézabel. Et donc quand Jézabel avait décidé de mettre à mort tous les prophètes de l'Éternel, lui, il était un homme qui craignait Dieu, il avait pris l'initiative de les protéger, de les cacher dans une caverne. Daniel chapitre 6 verset 10, c'est aussi un bel exemple, je vais le lire. Vous vous souvenez de Daniel et dans la fosse au lion. Cet épisode où il y avait un piège qui avait été tendu au roi Darius pour que Daniel soit conduit à transgresser un ordre du roi. Daniel, et quand l'ordre du roi est venu, qu'il ne devait être adoré que lui, Daniel 6, 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux et il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, comme il le faisait d'habitude, comme il le faisait actuellement. La piété est le fait de vivre et de manifester sa foi. L'exemple de Corneille également, chapitre 10, versets 1 à 2, où il est dit qu'il priait, qu'il faisait beaucoup de monde, et Dieu avait entendu et honoré cet homme qui avait une grande piété. Hein? Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27, donne également la religion pure et sans tâche d'aller visiter les personnes qui sont dans l'affliction, aller visiter les personnes qui sont dans le deuil, etc. Hein? Des exemples de piété, d'exercice de piété. La piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. On comprend que la piété va entretenir ma foi jusqu'au retour du Seigneur. Mais non seulement cela, elle est utile aussi pour la vie présente. C'est formidable. Je reviens à Timothée. Chapitre 1, chapitre 2. J'exhorte avant toute chose, chapitre 2, verset 1, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Et le passage de Pierre, très beau passage de Pierre également, 1 Pierre 3, 9, 17, qui est un bel encouragement à mener une vie pieuse. Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, c'est un exercice de piété, et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. S'exercer. Donc des promesses pour la vie, pour conserver la foi, pour la vie éternelle, et des promesses également, des bénédictions dans la vie présente. Alors pourquoi la piété n'est-elle pas si attirante que cela? Eh bien, parce qu'elle demande des efforts. On s'exerce quand on fait du sport, ben voilà, ça demande des efforts, il faut transpirer souvent, et donc l'exercice de piété, ça demande des efforts, il faut s'exercer. Quels sont les exercices de piété? J'en ai déjà évoqué quelques-uns. Moi, j'ai retenu la prière pour tous les humains, l'action de grâce, dire merci. On peut même faire du sport pendant que l'on prie. La question est de savoir, est-ce que je fais du sport et pendant que je fais du sport, je prie? Ou est-ce que je prie et pendant que je prie, je fais du sport? C'est plutôt la deuxième façon qu'il faut le voir. La priorité, c'est prier, je prie. Et en même temps que je prie, je peux faire du sport. Il y a des serviteurs de Dieu qui font ça de façon très bonne et qui encouragent. On peut faire les deux en même temps. Mais dans le bon ordre. D'abord, on prie et en priant, on peut faire du sport. Et en priant, on peut faire d'autres activités également. La prière, non, la lecture de la parole de Dieu. Vous avez remarqué, Paul ne demande pas à Timothée de relire ses lettres. Il ne lui demande pas de... Écoute, regarde, tiens la copie de telle lettre que j'avais envoyée à tel endroit. Non, Paul dit à Timothée, lire la parole de Dieu, les Écritures. Est-ce que Paul, comment il aurait vu aujourd'hui les posts, les podcasts qu'on trouve sur Internet? On peut passer du temps à écouter les podcasts Est-ce que c'est un exercice de piété ou pas? Je serais curieux de savoir comment l'apôtre Paul classerait cette activité-là. Est-ce que c'est relève de la piété ou est-ce que ça relève plutôt des généalogies sans fin, des fables, des contes profanes de vieilles femmes? Où il le classerait? Des disputes de mots. Paul, il demande de lire la Bible à Timothée. La lecture de la parole de Dieu, la lecture publique et la lecture privée, l'enseignement, veiller sur son enseignement, étudier. Le combat de la foi est une activité également de piété, d'évangélisation. Hein, on peut faire ça de façon régulière, etc. Bon, Patrick, je vais donner ton exemple. Hein, quand il a lu le calendrier, il met le feuillet dans la boîte aux lettres. Des gens quand ils se promènent dans la rue, voilà. Et c'est un exercice, s'il le fait ça régulièrement. Il y a une multitude de façons de participer à l'évangélisation, hein, ne serait-ce que prier pour l'évangélisation, avoir cette habitude-là. Il y a des foules de missions qui demandent prier pour nous, prier pour nous, prier pour nous. Ce n'est pas les sujets de prière qui manquent. Mais le combat de la foi, l'évangélisation, cela coûte quand même. Et les bonnes œuvres, Corneille faisait des aumônes, il donnait, il faisait des dons d'argent. Et il y a d'autres façons également, j'ai cité de visiter également les personnes qui sont malheureuses. L'exercice de piété va permettre à notre foi de durer, de résister au temps, la promesse de la vie à venir, et ils vont également améliorer notre quotidien. Qu'est-ce que c'est qui améliorera notre quotidien? C'est l'esprit de reconnaissance, l'esprit de pardon, l'esprit d'être un artisan de paix, la joie. Hein, on a chanté des gens éclatent de joie. Et donc tout ça, c'est pour la vie présente. On en retire des bénéfices immédiats et tout de suite d'exercices de piété. La piété est un savoir-faire nécessaire à l'exercice de la responsabilité dans l'Église de Jésus. Et là, nous avons tous un défi devant nous. On est tous quelque part responsables de quelque chose. Et on est tous appelés à avoir une vie pieuse, une foi solide. Le savoir-faire, la piété, le savoir-être est maintenant le passage d'après, versets 12 à 16. Que personne, verset 11, déclare ces choses, enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de la main de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Un savoir-être indispensable, c'est la consécration. L'exercice de la responsabilité doit se faire avec consécration. La vie terrestre de Jésus a été un très bel exemple de piété et de consécration. Est-ce que nous aspirons à une responsabilité dans l'Église? Est-ce que nous aspirons à servir le Seigneur? La question de la consécration va se poser à nous. Alors j'ai quelques questions ici, je les ai appelées les questions qui tuent. Je ne sais pas si ça tue la consécration ou si ça tue les obstacles à la consécration. Mais en fait, il y a des questions qui se posent. Faut-il que je m'engage? Ça, est-ce qu'il faut que je m'engage ou pas? Alors, bien sûr, hein, c'est le bon sens. On ne peut pas être responsable de quoi que ce soit sans s'engager. Par définition, responsable est une personne engagée. Et l'engagement est en crise en France et de façon générale et dans l'Église. Oui, il faut s'engager. Et l'autre question, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire?
Alors, on voit une liste de choses ici dont l'apôtre Paul parle à Timothée, des choses très précises, mais on voit bien qu'il y a certes des choses qui touchent un contexte général, mais également le contexte de la situation à Éphèse à ce moment-là, et il serait pas sage de se limiter uniquement à ce que l'apôtre dit de faire. L'apôtre ne donne pas une liste des choses à faire, mais il donne un travail à accomplir. Voilà le travail que tu dois accomplir. À toi de voir les choses que tu dois faire, mais voilà ce que tu dois accomplir. Alors, la réponse à ce que je devrais faire n'est pas importante. L'important, c'est de comprendre le travail que l'on doit accomplir. Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que je vais gagner là-dedans? C'est une chose importante dans un recrutement, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Ben, là, le texte n'en parle un petit peu en ce qui concerne les diacres, un rang honorable, une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Chapitre 3, verset 13. L'apôtre Pierre, lui, parle clairement pour ce qui concerne les anciens. Il leur promet, s'ils sont fidèles, une couronne de gloire. Une couronne de gloire. Et c'est pas dit qu'il n'y a que les anciens qui recevront la couronne de gloire, mais en tout cas ceux qui ont finalement fait le job, ils recevront la couronne de gloire. On était dans Daniel, chapitre 12, verset 3. C'est un très beau passage, une très belle la révélation qu'a Daniel. Je vais vous le lire. Daniel, hop, à la fin, tout à fait la dernière révélation. Donc, il parle des temps de la fin. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oui, il y a quelque chose à gagner. Et vous avez également Libre Apocalypse, les chapitres 2 et 3 qui parlent où Jésus s'adresse aux églises et il fait de belles promesses. Combien cela va coûter? Combien cela va coûter? On voit que les choses que l'on gagne ne sont pas des choses terrestres et matérielles, mais par contre, et d'ici-bas, mais par contre, ça va coûter, oui, ça va coûter. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, a dit Jésus, Matthieu chapitre 16, 24. Et plus la responsabilité est importante, plus le prix à payer sera élevé. Patrick nous a parler du prix de la livraison, qui était le rôle d'un responsable. Il va chercher les trésors de la foi et il les transporte pour les amener aux frères et aux sœurs. Il fait le transport et c'est lui qui paye les frais de livraison. Hein. Il a à la fois il a à porter et à la fois il a à payer. Hein. Cela coûte. Notre société est égocentrique et chacun est centré sur son propre confort. Qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va coûter, c'est certain. Ça coûte. La responsabilité dans l'Église de Jésus coûte quelque chose. Il y a un prix à payer. Il y a quelque chose à gagner. Juste pour rapport au poste d'ancien, je voudrais terminer par cela. Ce qui concerne l'ancien, il y a une consécration qui est demandée. Il y a ce désir. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, il désire une œuvre excellente. En avons-nous lu la semaine dernière, il y a un désir de la personne. Il y a un appel de Dieu. On le voit ici au chapitre 4. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par la prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Il y a un appel de Dieu. Il y a un désir. Il y a un appel de Dieu. Et il y a également la reconnaissance de l'Église, avec les critères du chapitre 3 dont on a parlé la semaine dernière. Et également ici, que tes progrès soient évidents pour tous. La reconnaissance de l'Église. Tout cela pousse à la consécration, à se consacrer à Dieu. Alors je vais répéter cette fiche de poste qui est valable, je crois, pour nous tous, pas seulement pour les anciens, même s'il y a de la pression qui est mise sur eux ici dans le texte, et c'est certainement nécessaire. On voit que Timothée n'avait pas un rôle facile, et on va le voir encore par la suite, entre une vérité reçue et une apostasie à venir, transmettre la parole de foi avec piété et consécration. C'est une belle œuvre, dans tous les cas. Que le Seigneur nous bénisse dans ce travail et dans cet appel, parce que le Seigneur recrute. Il a des postes ouverts. Je ne me suis pas concerté avec Patrick, il nous a parlé tout à l'heure quelle est la volonté de Dieu pour moi. Mais il y a des postes ouverts. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Paul, pour Timothée, merci pour tous ces chrétiens qui nous ont précédés, qui ont eu à cœur de transmettre cette vérité de l'Évangile sans altération. Et ils ont consacré leur vie à cela, leur énergie, leur loisir, leur temps, leur argent. Seigneur, merci. Merci pour chacun d'eux. Merci Seigneur pour ta parole qui est extraordinairement suffisante pour nous et extraordinairement nécessaire. Merci de nous aider à la lire, à la comprendre, à la partager dans ici à l'église, mais pour ceux qui sont à l'école du dimanche, pour ceux qui sont à la maison avec les petits-enfants. Seigneur, tu es là. Tu n'as pas abandonné l'église d'Éphèse, tu n'as pas abandonné Timothée, tu n'as jamais abandonné Paul. Seigneur, tu as toujours soutenu et accompagné et fortifié tous ceux qui ont des postes de responsabilité et toi-même, tu travaillais avec eux, comme dit ta parole, travaillant avec eux par des signes, par des prodiges et des miracles. Seigneur, merci de nous permettre de bien mesurer la dépense avant de construire cette tour, avant de participer à être nous-mêmes des colonnes. Et Seigneur, merci, parce que c'est toi qui crée le vouloir et le faire. Amen. Soit à toi, soit toute la louange, la gloire et la reconnaissance. Amen.